10h43, on perd pas de temps. Ça va rejoindre Raphaël Jacob pour parler de politique américaine. Beaucoup de trucs à discuter avec notre ami Raphaël de la chaire Raoul Dandurand. Salut, Raph!
Salut, monsieur!
Raphaël, écoute, on est vendredi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers importants à aborder. Il y a le G7, il y a la réouverture de la frontière, mais je veux quand même commencer avec Jeffrey Tobin.
C'est
on est vendredi, ça va être ça ma priorité. On va écouter un extrait dans quelques instants. Avant, je veux que tu nous replantes le décor, parce qu'on en avait parlé quand c'était arrivé. Peut-être des gens qui se souviennent plus qui est Jeffrey Tobin, et surtout ce qu'on lui reprochait.
Puis c'est à moi que tu donnes évidemment la tâche ingrate.
Je peux le faire si tu veux. Je peux le faire.
Récapituler ce qui s'est passé. Écoute, je vais le donner en langage, disons, approprié pour des auditeurs de tout public qui pourraient nous entendre présentement. Donc, il y a quelques mois, Jeffrey Tobin, qui était, je devrais dire, depuis très, très longtemps, l'espèce d'analyste judiciaire principal du réseau CNN, se fait prendre lors d'un appel Zoom en direct, évidemment, à son insu. Lui ne pense pas qu'on le voit à l'écran alors qu'on le voit. Se fait donc prendre en train de se faire, disons, agiter le moineau. On va le dire comme ça. Suite à ça,
il est non, mais juste, soyons clairs, parce qu'on a vu William Amos ici qui était nu pis tout ça. Pis,
ah bon, non, c'est pas ça, là.
Lui, il se masturbait devant la caméra.
Clairement.
C'est carrément ça, là.
Oui. Exact. Rien okay. à juger.
OK, parfait. Donc, ça fait 7 mois de ça. C'était avant l'élection américaine. Évidemment, ouais. Il a disparu du radar. On le voyait plus à CNN. On le voyait plus dans les journaux, non plus dans le New York Times. Et hier, il a réapparu dans les médias, dans une entrevue avec CNN. Et on va juste écouter le début du segment avec l'animatrice. C'est tellement malaisant. Écoutez ce que ça donne.
Let's bring in CNN chief legal analyst Jeffrey Tobin to talk about this and more. Hi, Jeffrey.
Hello, Allison.
It's been a while.
It has been a while, indeed.
I feel like we should address what's happened in the months since we've seen you, since some of our viewers may not know what has happened. So I guess I'll recap. I'll do the honors.
Help yourself.
Okay. In October, you were on a Zoom call with your colleagues from the New Yorker magazine. Everyone took a break for several minutes, during which time you were caught masturbating on camera. You were subsequently fired from that job after 27 years of working there. And you,
donc,
since
ça se poursuit
pendant
à peu près deux minutes comme ça. Et là, il adresse la situation en disant que c'était moronique ce qu'il a fait et tout ça. As-tu été surpris? Et là, pour les gens qui maîtrisent moins bien l'anglais, je pense, c'était quand même assez évident. Là, elle dit, on te réaccueille après une longue absence. On va parler de ce qui s'est passé. Elle décrit la situation en disant, tu as été pris à te masturber devant la caméra. As-tu été surpris de le voir réapparaître à CNN?
Premièrement, Joe, je pense que même si tu parles pas un seul mot d'anglais, tu peux saisir juste avec le ton.
Le malaise, ben oui.
Oh, écoute, c'est tellement malaisant. Je dirais que personnellement, ce qui me frappe, là, c'est que ce type-là a pas besoin de cette job-là, là, OK? Il est relativement, en fait, de tout ce que j'en sais, il est essentiellement indépendant de fortune dans la mesure où, en plus d'avoir été très, très longtemps un contributeur de CNN assez grassement payé, il a aussi écrit au moins un best-seller, là. Puis un best-seller aux États-Unis, ça peut te rendre riche, là, OK? Donc, ce type-là, à ce stade-là de sa vie, a pas besoin de ça. Et d'être prêt à se faire réhumilier, parce que c'est, en fait, c'est une deuxième humiliation publique quand tu y penses. Pour moi, ça montre à quel point il y en a pour qui c'est une drogue, le Kodak. Ils peuvent juste pas s'en passer. Écoute, c'est pas tout le monde, là, qui serait prêt à se retaper ce que ce type-là a fait hier. Là, ça fait 24 heures qu'à grandeur du pays, pour pas dire à grandeur du continent, on se moque de sa face, ouais, de façon absolument épouvantable. Fait que ça, c'est, pour moi, c'est remarquable d'abord à cause de ça. Puis la seule chose que j'ajouterais aussi là-dessus, je suis sûr que Jérôme va avoir une opinion, considérant qu'on s'est parlé souvent de Chris Cuomo, c'est la décision de CNN dans tout ça. C'est quoi le standard exactement qu'on utilise? Pourquoi ce type-là peut retourner après, disons, un incident assez particulier alors qu'on a évincé d'autres personnes? Et qu'en même temps, encore une fois, on garde un animateur comme Chris Cuomo avec tous les problèmes qui lui sont attachés. Tu sais, c'est, disons que c'est de la géométrie variable,
mais à peu près. Mais c'est ça. Mais en même temps, lui, là, Raphaël, là, tu sais, je veux pas avoir l'air de le défendre nécessairement, tu sais, pis, mais tu sais, j'ai peut-être pas toute l'histoire non plus. Est-ce qu'à un moment donné, on a réalisé que c'était un geste exhibitionniste ou c'était vraiment accidentel, son affaire?
C'est accidentel, de ce que j'en comprends.
Tu sais, moi, je me dis, OK, peut-être qu'on peut y donner un break. C'est juste qu'à un moment donné, ça te colle longtemps à la peau, là, ce genre d'événement. temps-là.
D'incident,
ouais. On peut au minimum appeler ça une imprudence.
Mais pourquoi pas lui donner une deuxième chance? T'sais, je comprends que les Américains sont très puritains, là. T'sais, des fois, ils me font capoter avec ça, leur côté. Mais ouais, en même temps, tabarnouche, je n'ai toujours même pas violé un enfant de 6 ans non plus.
Mais non, celui qui ne s'est jamais masturbé lance la première fois.
Ben, tu sais, c'est un moment donné.
Que le premier qui ne s'est jamais masturbé sur un appel Zoom lève la main.
Ah, ben, je vais quand même lever la main. Je vais lever la main. Je vais lever deux mains, là. Si vous lancez... deux mains sont libres, je sais pas qui.
Si vous lancez la pierre, lavez-vous la main avant.
OK, hey, on va passer aux choses sérieuses.
Pourquoi, c'était pas sérieux, ça?
Non. J'ai hâte de voir s'il va. Tu sais, dans ce temps-là, souvent, c'est un essai qu'on fait, puis on regarde comment le public réagit.
Ouais.
Sera-t-il de retour sur une base régulière ou c'était un essai et ils diront, ouais, finalement, ça n'a pas passé. On va suivre ça. OK. Chose plus sérieuse, on parle de ce qui se passe aux États-Unis, mais parlons de choses qui ont un impact sur nous ici au Canada. Toute la question de la réouverture des frontières, est-ce que ça commence à être évoqué aux États-Unis?
Écoute, aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est évoqué. Aux États-Unis, on pousse tellement fort que là, ça commence à être évoqué, en fait, au Canada. Et c'est là que c'est intéressant, ce qui s'est passé cette semaine. C'est que, j'allais dire, ça fait des semaines. En fait, c'est plus vrai, là. Ça fait des mois qu'on pousse, puis qu'on pousse, et qu'on pousse du côté américain pour que le Canada commence à vouloir vraiment arriver à la table de négociation, puis accoucher d'un plan de réouverture. Pas nécessairement une date, puis une promesse, mais au moins un engagement à y aller d'une ébauche. Et là, on commence à voir ça. Donc, on en a parlé un petit peu cette semaine. La possibilité, je pense qu'il faut être très, très prudent, là, que peut-être à partir du mois de juillet, il y a certains allègements, particulièrement pour les gens qui sont pleinement, ça mérite d'être souligné, là, pleinement vaccinés, pas juste une dose, deux doses, lorsque c'est un vaccin à deux doses. Au-delà de ça, ça demeure quand même timide. Mais ce que je noterais, ça mérite toujours d'être dit très haut et fort lorsqu'on parle de la réouverture de la frontière, c'est que oui, évidemment, à la base, il y a une crise sanitaire. En même temps, il y a des incitatifs politiques qui sont pas les mêmes des deux côtés de la frontière. Puis la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que cette semaine, justement, on a un nouveau sondage Léger qui est sorti. Puis de façon très intéressante, c'est rare qu'on voit ça, des sondages conjoints, si on veut, là, qui sont faits en même temps aux États-Unis et au Canada. Mais on a demandé cette question-là à la fois aux citoyens canadiens et aux citoyens américains. Est-ce qu'ils étaient pour ou contre ou une réouverture là très, très prochaine de la frontière? Et écoute, c'est comme vivre dans deux mondes parallèles. Aux États-Unis, c'est plus des trois quarts. C'est presque 80% qui dit oui. Au Canada, c'est moins de 40%. C'est à peine le tiers présentement de la population qui se dit à l'aise avec une réouverture à très court terme. Fait que si t'es le gouvernement américain ou t'es un élu américain, tu veux, entre guillemets, représenter ta population, ta position, c'est pas la même que si t'es un élu canadien présentement. Fait qu'il y a cette dynamique-là là, qui joue très, très sérieusement dans toute cette saga-là, si on veut.
Mais dis-moi, Raph, ils en sont où actuellement avec la vaccination aux États-Unis? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de plafonnement. Là. Ils ont atteint un top. Puis dans plusieurs États aussi, dans les derniers mois, il y avait une prise de risque supplémentaire. Il y a certains États qui étaient un petit peu plus cow-boys que d'autres, qui se disaient, regarde, on va accepter tant de décès de plus, on va essayer de gérer nos hôpitaux. La Floride est un exemple de ça. Il y a eu le Texas aussi. Est-ce qu'ils sont encore dans une zone où ils sont un peu plus cow-boys que nous, où le niveau de vaccination justifie un peu le retour aux libertés? Parce que là, on va le voir. Il y a des gens qui vont découvrir ça là, en suivant la série canadien Vegas. Ouais. Là, à Vegas,
ils vont pogner de quoi?
Le T-Mobile Arena plein. Là. Ouais. Est-ce qu'ils sont encore dans une gestion du risque plus cow-boy ou le taux de vaccination leur permet de faire ça, présentement?
Ben, c'est-à-dire que c'est un peu des deux. Le taux de vaccination continue à augmenter, même si le rythme, la cadence quotidienne, c'est pas juste qu'elle stagne, là. Elle a vraiment diminué depuis à peu près deux mois. Mais le taux de vaccination est quand même rendu très élevé. Là. C'est une nette, très, très, très nette majorité d'Américains qui ont une première dose, qui ont à peu près à 50% qui est pleinement vacciné, qui a reçu les deux doses, encore une fois, quand c'est un vaccin à deux doses. Puis, tu sais, tu me parles de où est-ce qu'on a des mesures, à quel point c'est, en guillemets, cow-boy ou non. Écoute, je pense que bien des gens qui ont peut-être moins suivi ce qui se passait aux États-Unis depuis un an, là, au niveau de la pandémie, peut-être surtout depuis les derniers mois, vont justement pogner quelque chose en voyant l'aréna plein à Las Vegas. Il faut réaliser que c'est pas un cas isolé. Tu sais, quand on se parlait, vous et moi, il y a, disons, trois mois, il y a quatre mois, puis que le Texas était justement un cas un petit peu à part, là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de grosses juridictions comme ça qui avaient déconfiné de façon aussi prononcée. Là, c'est plus une exception, c'est la règle. Les endroits, les juridictions importantes aux États-Unis où on n'a pas en fait, entièrement déconfinés sont très, très rares. Fait que, tu sais, on est vraiment, vraiment dans un autre monde carrément. Est-ce que la vaccination le justifie ou non? Écoute, ça, c'est un jugement sur lequel je me prononcerai pas, mais le simple fait est que, encore une fois, on est carrément dans un autre environnement aux États-Unis. Puis ça explique pourquoi, encore une fois, du côté américain, on est aussi beaucoup plus, disons, prêt, entre guillemets, à ouvrir la frontière, parce qu'au Canada, on n'est pas dans cet environnement-là présentement.
Raphaël, il nous reste 2 minutes. Parlons de Joe Biden, premier voyage à l'étranger en Europe pour le G7. Qu'est-ce qui va faire le plus parler? Certainement pas sa rencontre avec la reine, mais j'imagine que la rencontre après le G7 avec Vladimir Poutine risque de retenir beaucoup l'attention.
Tu sais, tu dis ça en semi-joke, Joe, mais en même temps, ça montre un petit peu comment ça a changé la simple arrivée de Biden puis le départ de Trump, parce que je sais pas si vous vous rappelez, quand Trump était là et qu'il y avait eu une rencontre avec la reine, il y avait eu un faux pas diplomatique absolument épouvantable où on voyait les deux marcher. Ils étaient censés être côte à côte, mais c'était tellement malaisant. Bref, le simple fait d'avoir un président plus normal fait en sorte qu'effectivement, on parle moins de rencontres aussi banales que celle avec la reine. Donc non, ça sera pas, je pense, la priorité. Peut-être un dossier très, très gros, dont on risque de se reparler ensemble la semaine prochaine, c'est la Russie. Parce que oui, il y a le début du G7, il y a après ça le sommet de l'OTAN, mais il y a aussi l'espèce de punch de tout ce voyage-là dans à peu près 5 jours, c'est-à-dire tête-à-tête avec Vladimir Poutine. C'est une relation, on le sait, qui est pas nouvelle entre les deux hommes. Biden et Poutine se connaissent notamment depuis que Biden est à la fois vice-président et même avant ça lorsqu'il était sénateur. Poutine, faut le rappeler, est arrivé en poste pendant que Bill Clinton était président. Le type est là depuis longtemps. Fait qu'il y a déjà des assises à cette relation-là et c'est une relation qui est très, très difficile. Et quand on sait justement la dynamique très controversée dans laquelle on était pendant 4 ans avec Moscou quand Trump était là, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc, ça à suivre, puis je vous ajoute rapidement pour conclure.
Il reste 30 secondes.
30 secondes, ça n'en prendra pas 30. La Chine, parce que s'il y a un point de continuité entre Trump et Biden depuis le début de son administration, c'est une attitude très agressive par rapport à Pékin. Grosse question pour ce qui est des sommets à la fois du G7 et de l'OTAN. À quel point est-ce que Biden est capable ou non de se rallier des pays en Europe et le Canada pour avoir une position aussi musclée que les Américains à l'endroit de la Chine? Donc, des grosses questions pour les prochains jours.
On va en reparler ensemble la semaine prochaine, assurément. Merci beaucoup, Raphaël.
Salut, Raph.
Bon week-end à toi.
Bye. Salut.
Raphaël Jacob, notre collègue, ami de la chaire Raoul d'Endurant. Continuez à aller dire plein de bons mots sur mon Instagram, Jonathan Trudeau. Vous avez un bon jugement.
Ça vient de quelle mercerie, ta chemise?
Je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Vous faites ma journée. On revient.